Il faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
Bonsoir à tous. Téléspectateurs qui n'avaient pas le pied marin, eh bien faites comme moi, bourrez-vous de Dramamine, parce que nous allons faire une promenade en mer. Sur le parcours, les écrivains et la voile. Bon, pour le moment tout va bien, il n'y a pas trop de vent, la mer est calme. Voilà, c'est parti.
Homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir et tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame. Est-ce ce refuge intranquille, si bien décrit par Baudelaire, qu'a cherché tout au long de sa vie le skipper septuagénaire Jean-Luc Vandenède ? Une vie sur les flots comme une quête de soi, d'ailleurs VDH, comme on le surnomme dans le milieu, répète à l'envi qu'il n'est jamais autant lui-même que lorsqu'il est en mer. Mais qu'est-ce que ça veut bien dire ? Eh bien, on va tenter d'en savoir un peu plus ce soir. C'était il y a un an tout juste, le 29 janvier 2019. Jean-Luc Vandenède, 73 ans, rendez-vous compte, franchissait en tête la ligne d'arrivée du Golden Globe Race, course à la voile autour du monde en solitaire et à l'ancienne, comprenait sans assistance technique, une épreuve au sextant, une authentique prouesse. Ce soir, VDH est dans la place, assis dans ce studio. Jean-Luc Vandenède, bonsoir.
Bonsoir.
Et soyez le bienvenu. À vos côtés, il est écrivain, journaliste et grand amateur de voile. C'est toujours un plaisir de l'accueillir. Benoît Emmermann, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous aussi, Benoît. Vous êtes bien sur France Inter dans l'émission qui vous raconte la grande histoire du sport. Ce soir, vie et destin de Jean-Luc Vandenède, navigateur au confluent des siècles.
L'œil du tigre, Philippe Collin sur France Inter.
Alors, cette semaine en préambule, on débute avec un écrivain maritime, Henri de Montfred, ami de Jean Cocteau, et même si l'un et l'autre sont un peu dévoyés au milieu du XXe siècle, leur littérature demeure. Voici donc Henri de Montfred, passionné de sport nautique, un skipper sur Mer Rouge. Nous étions en 1966 au micro de l'ORTF.
Combien de temps avez-vous navigué sur un Zaroug ?
Oh ben, Zaroug et autre chose, ces bateaux à voile qu'on a sur la mer Rouge, j'ai navigué pendant 35 ans. C'est-à-dire depuis 1910. Mais moi je veux parler de la voile qui se pratique dans des pays où il n'y a pas de phare, où il n'y a pas de port, où il n'y a rien du tout. Et on a des bateaux extrêmement simples, dans lesquels il n'y a pas de cabine, il n'y a aucun confort. Il faut se contenter de ce qu'on y trouve. Hein. D'ailleurs, le plus pratique, c'est d'avoir le moins de besoin pour être riche. C'est vrai partout d'ailleurs.
Quel est votre meilleur souvenir de voile ?
Oh ben, on tenait dans une rade foraine, qu'on a échappé à un sale temps qui vous fait bourlinguer depuis 24 heures, on est crevé, on n'a pas pu bouffer, on n'a pas pu dormir, et on est dans une petite rade foraine où on entend la mer gronder sur le récif tout autour, alors on pense à ceux qui sont à la bourre, charitablement, n'est-ce pas ? Et soi-même, bah, on est là, béatement, à écouter siffler le vent dans les gréements. Ça, ce sont des souvenirs inoubliables. Quand on est en face de la nature, hein, en face de cet adversaire implacable, mais sans haine, c'est pour ça qu'on combat et qu'on se souvient avec satisfaction des combats dont on est sorti, parce qu'on a combattu sans haine. Est-ce qu'on n'a pas dans nos pays civilisés où c'est la haine qui mène bien les choses ?
My hero. Am I a hero now? Am I a hero? Am I a hero now? I loved you like a brother. It's on the news again. I guess they killed another. Am I a hero? Am I a hero now? To die a hero. All
Hero, chanson signée Michael Kiwanuka, un titre idoine pour amorcer l'histoire du dimanche soir. Dans la France de l'immédiate après-guerre, celle des années 50, en Picardie, un gamin s'est confectionné un radeau dans le jardin de son grand-père. Un bateau immobile donc, mais sur lequel le môme rejouait les péripéties de la littérature maritime qu'il dévorait. Jean-Luc Vandened lisait Stevenson, Jack London et peut-être même déjà Ernest Hemingway, écrivain à qui on le compare aujourd'hui et qui, tel un vieil homme sur la mer, a réalisé un exploit extraordinaire il y a tout juste un an. Nous étions le 29 janvier 2019.
Jean-Luc Vandened a quitté les tableaux noirs depuis Belle Lurette pour devenir l'un de nos grands marins et il vient de boucler en vainqueur la Golden Globe Race, tour du monde en solitaire à l'ancienne, sextant, carte papier, liaison radio tout de même, mais pas de GPS, pas de portable. Il avait quitté les Sables d'Olonne le 1er juillet dernier. Le voilà de retour 212 jours plus tard. Jérôme Val accueilli, commencé le faire dans le port du Vendée Globe.
Un retour à la civilisation brutale après 212 jours de solitude. Mais l'accueil a été joyeux et festif. Des milliers de personnes installées malgré la pluie le long du chenal des Sables d'Olonne pour saluer VDH Jean-Luc Vandened.
Eh ben ouais, je suis content d'être là.
Nous aussi.
Pas fâché d'en finir avec les grains qui se sont succédés sur un bateau handicapé, son mât est abîmé depuis le Pacifique Sud, au point qu'il a songé à abandonner.
Ce qu'on fait là, c'est beaucoup une question de morale. C'est plus utile d'avoir du moral que de la force physique, quoi.
Le premier marin à avoir effectué un tour du monde sans escale, le Britannique Robin Knox Johnston, était là ce matin, comme un passage de témoin un demi-siècle plus tard.
C'est à cause de lui qu'on fait ça. C'est un peu retrouver les vraies racines de la navigation de base telles qu'on les connaissait il y a 50 ans. Quoi. Je la referai pas, parce que je suis trop vieux. Pas déconner, dans 4 ans... De toute façon, j'ai plus rien à gagner, parce que vous avez vu ma progression. Au premier Vendée Globe, j'ai fait 3, au deuxième, j'ai fait 2, et celle-ci, je fais 1.
Un palmarès qui en dit long sur ce vieil homme et son rapport à la mer.
Jean-Luc Vandened, c'est un plaisir de vous accueillir dans ce studio. En janvier dernier, donc il y a un an, à l'âge de 73 ans, vous avez remporté cette première grande victoire pour vous dans un tour du monde à la voile. Une prouesse, évidemment. Enzo Ferrari, le grand apôtre de la vitesse, disait « il faut savoir attendre ». Vous avez su attendre, Jean-Luc Vandened. Comment est-ce que vous avez vécu cette victoire? Est-ce que c'est l'aboutissement d'une vie, Jean-Luc?
Ah ben, c'est sûr que... Après des places d'honneur sur mes tours du monde, la victoire, c'était une cerise sur le gâteau. Mais mon premier objectif dans cette épreuve, c'était d'abord d'arriver. Quand je suis parti, c'était mon souci principal. Je savais que on était 17 au départ. Je savais que une petite moitié arriverait. Je savais qu'il y avait les risques de chavirage, les risques de dématage, les risques de casse. Et donc, mon premier souci, c'était ça. Évidemment, la tête de la course, c'était la cerise sur le gâteau.
Eh oui, quel exploit extraordinaire. Et puis arriver à 73 ans à décrocher cette victoire, c'est quand même fantastique. Benoît Immermann, vous êtes écrivain, journaliste, passionné de sport et de voile en particulier. Par ailleurs, l'éditeur de Jean-Luc Vandened, le dernier Loup de mer, c'est paru chez Stock. Ce sont les mémoires de Jean-Luc Vandened, on va dire, pour résumer la chose. Benoît, comment est-ce que l'écrivain que vous êtes pourrait décrire cet exploit réalisé par Jean-Luc Vandened l'an passé?
Moi, ce qui me frappe, d'ailleurs, on parle de livres, on parle de littérature, on a introduit cette émission avec Henri de Montfred. Ce qui m'a frappé d'abord dans le destin de Jean-Luc, c'est le fait qu'il n'est pas né au bord de la mer. C'est le cas de Montfred, d'ailleurs, qui vient du Limousin.
C'est votre cas.
C'est mon
cas. Vous êtes du territoire de Belfort.
Absolument.
On est loin de la mer à Belfort, mais vous êtes passionné par la voile.
C'est le cas d'Alain Colas, par exemple.
Bien sûr.
Et ça m'a toujours fasciné que, donc c'est la littérature généralement, ce sont les livres qui ont emmené ces champions à se jeter à l'eau. Et ça, dans le cas de Jean-Luc, qui est allé en vacances très vite au bord de la mer, certes, Mais il n'est pas né au bord de la mer. Ça, c'est un point qui m'a beaucoup, beaucoup intéressé.
Alors justement, Jean-Luc, vous êtes né le 8 juin 1945. Vous êtes vraiment un enfant de la libération. Vous avez grandi dans une ville à Amiens, meurtrie par la guerre, une ville bombardée. Il ne restait pas grand-chose. Effectivement, Benoît vient de le dire, vous n'êtes pas un enfant du bord de mer. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que vous êtes venu à l'océan par la littérature, par les écrivains?
Exactement. Alors, d'une part, c'est vrai que j'allais en vacances au bord de la mer, et c'est vrai que le premier jouet dont j'ai le souvenir, c'était un petit bateau qu'on faisait marcher dans les bâches, que je faisais marcher dans les bâches. Les bâches, c'est une espèce de retenue d'eau qui se trouve sur le bord des plages quand la mer redescend, et c'est génial pour les gamins parce que ça permet de patauger, de faire un port, de creuser des trucs. Et donc ça, je me souviens très bien de ça. Et je suis tombé, probablement par hasard, sur des livres qui parlaient de voile, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Partir avec son bateau, aller dans d'autres pays, et à l'époque, c'était pas courant du tout. Les navigateurs étaient accueillis comme des vrais héros, je pense à Alain Gerbaud, je pense à Marcel Bardiot, et emmener sa maison avec soi, comme un peu comme un escargot, pour aller visiter d'autres pays, c'est ça qui m'a séduit. Et je suis passé à la course beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard.
Il paraît que vous avez grandi dans une rue à Amiens où a vécu Jules Verne, c'est
tout
vrai?
Tout à fait, j'habitais rue Charles Dubois, à Amiens. Et
ça crée un référent, on va dire, quand on est enfant, sans doute.
Un livre comme Le phare du bout du monde, qui est sur l'île des États, chaque fois que je suis passé là-bas, j'y ai pensé.
Et oui.
C'est un roman. Ça se passe sur cette île, dans un lieu qui est un peu fermé, avec du suspense et tout. Moi, je me rappelle très très bien avoir lu ce roman quand j'étais gamin.
Benoît, et évidemment, il y a une corrélation à faire avec Hemingway, c'est-à-dire que c'est étrange, mais on le dit beaucoup, on le lit beaucoup. Il est un peu facile de comparer Hemingway à Vandenette sur le côté physique, mais néanmoins, ça participe au côté romanesque. C'est vrai qu'il a une tronche à la Hemingway.
Avec Hemingway et avec son héros, le vieil homme et la mère.
Absolument.
Effectivement, qui est interprété par Spencer Tracy au cinéma.
Oui.
Et il y a quelque chose de Vandenette dans Spencer Tracy.
Absolument, c'est très juste, c'est très juste. Jean-Luc, vous avez donc commencé à naviguer à 17 ans. Vous êtes devenu moniteur de voile au Glénan, puis professeur de mathématiques. Ça, c'est aussi votre vie, c'est important. Vous avez enseigné les maths. Et puis, je crois que c'est en 77, un salon nautique à Paris. Il y a un projet qui vous intrigue. Vous êtes là. C'est Bob Salmon, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est quoi ce projet qui vous intrigue en 77?
En 77, moi, je regarde les grandes courses partir. J'ai évidemment suivi Éric Tabarly en 64. J'ai évidemment suivi l'histoire Alain Colas, tout ça. Avec des bateaux qui sont de plus en plus grands, de plus en plus chers. Et donc, pour moi, ce sont des épreuves qui sont totalement inaccessibles. Et donc, un Anglais, Bob Salmon, pour un petit peu, justement, contrer ce gigantisme qui apparaissait à cette époque, décide de faire une course complètement ridicule, puisqu'il s'agissait de traverser l'Atlantique avec des bateaux de 6,50 m, qui, en France, n'étaient pas du tout homologués pour faire ce genre d'épreuve. Et d'ailleurs, ça a posé des problèmes aux autorités maritimes. Et donc, je me suis dit, c'est extraordinaire. Parce que c'est un bateau de 6,50 m, il y a plein de bateaux de série qui font moins que ça. Il suffit de trouver un bateau de série.
Donc, c'est assez facile d'y participer. C'est une aventure
financièrement
incroyable.
Financièrement,
c'est jouable.
Évidemment.
Pour un grand amateur de voile que vous étiez à l'époque.
Exactement.
Ça devient,
puis moi,
ça devient touchable.
Déjà des bateaux.
Oui, ça devient touchable. Et du coup, on se dit, je vais tenter ma chance.
Après, exactement. Ouais. Moi, j'avais pas d'argent. Je venais de construire un bateau de 12 mètres en acier, dont j'avais fait les plans. J'étais exsangue financièrement parlant. Je suis allé voir le chantier Aubin et je lui ai dit, moi j'ai telle expérience et si vous voulez bien me prêter un bateau, je vais essayer de faire le mieux possible avec.
Alors cette toute première compétition, vous avez fini quatrième, je crois,
oui.
Elle fait écho à la dernière, celle que vous avez remportée l'an passé, parce que il faut quand même dire ce que c'est, cette course hallucinante là, du Golden Globe Race. C'est un Vendée Globe, donc sans assistance technique, ça veut dire au sexe avec les astres, à l'ancienne. C'est une course incroyable. On n'imagine pas ce que c'est aujourd'hui. On n'a pas le droit de contact technique avec la Terre. C'est quand même très particulier. Ou en cas d'extrême urgence. C'était quoi pour vous le défi? C'était un truc à la Jack London sur son Snark? C'était quoi? C'était reprendre la mer à l'ancienne, comme aux temps ancestraux?
Oui, c'était pour moi retrouver ce que j'avais lu justement dans ma jeunesse. Parce que moi, évidemment, j'avais suivi Robin Dunn Johnson en 68, j'ai évidemment suivi cette course, moi j'avais 23 ans à l'époque, et donc j'ai trouvé l'idée de Don McIntyre de refaire une course de cette façon, j'ai trouvé cette idée géniale. Et aujourd'hui,
donc 50 ans plus tard, c'était l'idée.
50 ans plus tard.
La première est en 68.
Aujourd'hui,
voilà.
On a perdu complètement l'habitude justement, de regarder le ciel, de regarder les étoiles, de ne pas aller vite, parce que les bateaux choisis, les bateaux qu'on pouvait choisir, c'était des bateaux lents, lourds, qui planent pas, alors qu'aujourd'hui,
c'est des bateaux volants.
On se met sur des foils,
bien sûr,
et on touche plus l'eau.
Oui, c'est des bateaux
et
volants.
Donc, moi, j'ai trouvé ça génial, cette idée, et évidemment, très rapidement, je me suis dit, il faut que je fasse ça, quoi.
Benoît Immermann, ce qui est fascinant avec ces grandes courses à la voile, et celle-ci évidemment participe à cet imaginaire, c'est que on ne peut pas filmer les marins en mer. C'est presque plus facile de filmer l'espace que de filmer l'océan. Quand ils quittent l'horizon des ports où ils s'en vont en compétition, après ils disparaissent pendant des mois, on ne les voit plus, et on les voit réapparaître de temps en temps, ou à la ligne d'arrivée évidemment. Ça participe aussi beaucoup à l'imaginaire, c'est un sport qu'on ne voit pas, Benoît, à la télévision.
Absolument, et c'est ce pourquoi d'ailleurs il y a ce rapport au public qui est énorme. S'il y a 200 000 personnes ou 250 000 personnes au départ du Vendée Globe, c'est que justement il y a cette part mystérieuse et cette empathie qui se crée entre ce public et ses navigateurs. Vous parlez de l'espace. Faire le tour du monde à la voile en solitaire, c'est, on va dire, c'est banal. Ben pas du tout. Si on fait les statistiques, grosso modo, il y a 450, 500 navigateurs solitaires qui ont fait cet exploit.
C'est très, très peu, hein.
C'est très, très peu. Mm-hmm. Et on a envoyé dans l'espace combien d'hommes? 500.
Eh oui.
Donc, y a une comparaison qui est tout à fait étonnante, quoi. On va dire que c'est scientifiquement très difficile, incroyable d'envoyer des hommes dans l'espace. Ben finalement, c'est presque plus simple d'envoyer un homme dans l'espace, puisqu'ils ont débuté qu'en 63. Depuis 125 ans, il y a seulement 450 navigateurs solitaires qui ont fait le tour du monde. Donc ce n'est pas banal, c'est difficile. Ça l'est d'autant plus quand on revient à des méthodes de navigation élémentaires comme celles qui ont été observées lors de cette dernière course. Donc c'est pour ça que le public est en phase avec ces navigateurs.
Au sextant et avec les astres, hein, je rappelle cette course qui est incroyable. Jean-Luc, pour qu'on comprenne bien, cette course, c'est 7 mois en mer tout seul, donc sans contact effectivement avec ou l'assistance technique ou même sa famille, on n'a pas de contact. J'imagine qu'on parle tout seul, non? On parle à haute voix, est-ce qu'on se parle à soi-même? Est-ce qu'on remplit le vide sur le bateau?
Alors ça m'arrive de me parler à moi-même, oui. Ça m'arrive aussi de m'engueuler quand je fais une bêtise.
Mais à haute voix?
Oui, à haute voix.
Oui. C'est intéressant.
Et de dire, mec, quel imbécile, fais attention. Il faut être très vigilant sur un bateau. Surtout en solitaire, on sait que si on tombe à l'eau, c'est fini. On sait que quand on fait des manœuvres, il faut constamment penser à parfaitement se tenir. Et puis là, on n'avait pas du tout d'électronique, ce qui veut dire qu'on n'avait pas de pilote. On avait un conservateur d'allure qui ne fait que garder l'allure du bateau. Donc, on est à la merci d'une vague qui peut arriver. Et donc, il faut constamment avoir à l'esprit, quand on manœuvre, cette sécurité de se tenir, de jamais lâcher une main pour soi.
Est-ce qu'on chante sur le bateau? Vous chantez sur le bateau?
Ça m'est arrivé.
C'est un chanteur.
Oui, c'est pour ça que je sais qu'il chante beaucoup, mais je me dis, avec des grands classiques du rock notamment, mais est-ce que vous avez chanté sur le bateau? Oui, vous chantez.
Oui, ça m'est arrivé. Ah, oui, ça m'est arrivé.
Vous êtes donc seul homme en mer sur ce bateau, mais il y a la vie, on croise la vie. Est-ce qu'on croise des mammifères? Est-ce qu'on croise des oiseaux?
Bien sûr.
Est-ce qu'on parle aux mammifères?
Ben, on les observe surtout beaucoup, parce que comme on est tout seul, alors il y a des moments, c'est très drôle. Moi, je me rappelle très bien d'un albatros qui avait décidé de passer entre les deux mâts. À l'époque, dans le Vendée Globe, j'avais un bateau avec deux mâts, j'avais un catch, et l'albatros se met à vouloir passer entre les deux mâts, et il se rend compte d'un seul coup qu'il y a un hauban qui relie ces deux mâts, et il freine comme un dessin animé, évidemment,
les ailes
la portance tombe,
oui.
Et hop, il bascule et repart de l'autre côté. Des trucs comme ça me fait rire, quoi. Dans le petit temps, des albatros qui décollent en se mettant à courir, exactement comme dans le dessin animé Bernard et Bianca, où l'albatros part au sommet d'une tour et il y a les deux petites souris dessus, et puis il est trop lourd, donc il pique. Enfin, moi, ça m'a rappelé ça. Alors évidemment, j'en passe, les dauphins, on en voit très souvent, les baleines, j'en ai une qui m'a suivi pendant, 10 minutes, un quart d'heure.
Ça crée une compagnie
la même
quand
route
même.
Que moi, absolument.
C'est un compagnon de voyage.
Je pense que c'est une baleine qui était sensible à la déco de mon spi.
Ah ouais. C'est génial. Est-ce qu'on a peur, Jean-Luc? Est-ce que, par exemple, la nuit, c'est quand même une immensité, c'est une obscurité, c'est parfois des montagnes, on n'imagine pas ça, mais la haute mer, c'est des montagnes. Est-ce qu'on a peur la nuit, par exemple?
Non, moi, j'ai pas spécialement peur la nuit. On a peur quand on domine plus le sujet. Bon, j'ai déjà eu peur. Par exemple, dans le premier Vendée Globe, on n'avait pas de limite du tout Donc, plus on descend vers le sud, plus on se raccourcit la route, hein, on prend la corde, si on
Bien
veut.
Sûr.
Et donc, moi, j'étais descendu 56, île Cap Horn, 58, 60, 62. Puis à 62, je me suis retrouvé au milieu des icebergs. Et là, on sait qu'il faut aller dormir. On veille pendant 24 heures, 30 heures, 40 heures. Puis au bout d'un moment, on tombe de sommeil, quoi. On tombe de sommeil avec des icebergs. Et là, là, on a peur.
Là, Jean-Luc, vous parlez du sommeil, c'est important parce que évidemment en solitaire, dans cette course-là, en plus sans assistance technique, j'imagine qu'on dort de manière un peu bizarre, des petites tranches, des petits moments. Au bout d'un moment, 7 mois de ce sommeil-là, on doit être dans des états un peu bizarres quand même, dans un état un peu second, j'imagine.
Non, parce que on récupère, on a les tranches de sommeil durent environ 1h30, et donc moi je me réveillais régulièrement toutes 16h30. Je contrôlais que le vent n'avait pas tourné, parce que si le vent tournait, le bateau tournait avec le vent. Et donc, je vérifiais que le cap était bon, que les voiles étaient bien réglées, hop. Et puis, 10 minutes, un quart d'heure après, je retournais me coucher. Et moi, j'ai la chance de m'endormir
facilement,
aussi vite que je me réveille. Donc, ça ne m'a pas du tout posé de problème. En plus, on peut faire ça plusieurs fois. Et quand il fait beau, ben, on récupère vraiment très bien, quoi.
Benoît, on écoute Van Denen parler, et c'est vrai que la comparaison avec le spationaute, l'astronaute, elle est assez évidente parce qu'il y a beaucoup de conditions physiques qui sont requises, beaucoup de stress, beaucoup d'attention et une aventure incroyable, hallucinante.
Ce qui m'a d'ailleurs frappé dans celle-là, c'est effectivement, je trouve que c'est une invention géniale de cette course anglaise parce qu'on est dans une époque où tout va vite, tout va trop vite sans doute et parallèlement on parle de décroissance, on parle de ralentir, on parle. Et voilà, on est tout à fait dans le sujet. On fait le tour du monde maintenant en 42 jours, François Gabart l'a fait en 42 jours, là ça dure 7 mois. On redonne le temps au temps, on donne l'impression qu'on a une perception meilleure de l'environnement dans lequel on est. Et je trouve que c'est assez intéressant, c'est une expérience qui nous ramène peut-être en arrière d'un point de vue historique, mais qui nous dirige vers la réalité, vers le concret.
J'en reviens à Ferrari, donc hein, l'apôtre de la vitesse, il faut savoir attendre, il faut savoir ralentir. On va poursuivre notre discussion avec Jean-Luc Van Denen, juste après le retour de l'orchestre sur Inter, emmené cette fois par Teamed Up, jeune artiste français, le titre joué après eux, Ainsi soit-il.
Dans la chaleur moite de juillet, sur un vieux scooter débridé, par la vitesse, les larmes tirées, tombent sur leurs jambes dénudées, ils reversent le lac assuré. Que rien ne puisse leur arriver. Trop jeune et déjà cabossé d'une vie en ronce et de fleurs fanées. Au-dessus de l'usine, le ciel est dégagé. Dans l'eau vert bouteille se reflète l'été. Étendus dans l'herbe, ils ne font que fumer. Perdus dans leur rêve, libres d'être oubliés. Du sirocco, on sourdine un morceau de techno. Le soleil au zénith qui brûle la peau, rafraîchi de désirs si loin des idéaux. Ils se mordent les lèvres et se dévorent. Haute leur jean cul nu sous les rayons d'or. Leurs mains se cherchent et se trouvent encore pour languir le plaisir qui finit par éclore. D'étoiles, les ombres tombent sur ton. L'obscurité déposera sur les couleurs un voile. Il se fabrique des souvenirs avant que tout ne s'estompe. Que l'on oublie les voix.
L'œil du tigre.
Ce moment-là, Jean-Luc Van Denen l'attendait depuis 122 jours et même un peu plus. Les Sables d'Olonne accueillent en triomphateur le nouveau héros des océans. Ils sont des milliers à avoir bravé le froid et le vent pour former une haie d'honneur aux Vendéens d'adoption. L'ancien prof de maths n'a pas compté ses efforts. Dernière manœuvre en mer, Van Denen sera à l'heure dite de retour parmi les hommes. 4 mois de solitude, c'est bien assez.
Moi je suis pas un ours mal léché qui veut rester en dehors du monde et tout. Moi j'aime bien la compagnie, j'aime bien les gens et ça me plaît très bien de rentrer, hein, au contraire.
Philippe Collin sur France Inter.
En 2004, le navigateur Jean-Luc Vandenède était donc content de rentrer chez lui après son périple en mer avec en poche un record du tour du monde à la voile en solitaire d'est en ouest, c'est-à-dire dans le sens contraire. Évidemment, encore un défi relevé et un record non battu depuis, avec en prime un énième passage du Cap Horn. D'ailleurs, il est toujours aujourd'hui, oui, le skipper qui a le plus franchi ce Cap Horn en compétition. Un mythe, ce Cap Horn de l'histoire maritime.
Des milliers de caporniers ont appareillé d'ici, de Saint-Malo. Mais le premier capornier officiel, historique en quelque sorte, n'était pas un Malouin, c'était un Hollandais, un nommé Schouten. Il a doublé le Cap Horn en 1616. Et pourquoi est-ce qu'il doublait le Cap Horn? Eh bien, il voulait, comme avait voulu Magellan, il voulait contourner le continent américain pour atteindre les Indes. On n'a pas de grands détails sur son voyage. On sait seulement que cet homme-là était né dans un village hollandais qui s'appelait Horn, et c'est ainsi qu'il a baptisé, une fois pour toutes, le cap qui devait devenir célèbre.
Jean-Luc Vandenède, est-ce que vous vous souvenez de votre premier passage du Cap Horn? C'est en février 87, je crois, si je dis pas de bêtises.
Évidemment.
Quel souvenir vous avez de ce... Quand on entend ça, on parle du 17e siècle, là, un marin solitaire qui passe au Cap Horn. Quel souvenir vous avez-vous de ce février 87?
À l'époque, c'était dans le Box Challenge, c'est-à-dire c'était une course en quatre étapes. Évidemment, je m'en rappelle, et je suis passé assez près. Il y avait un bon vent. Le bateau marchait très très vite au portant. C'était un bateau étroit qui planait très vite, beaucoup plus rapide que celui du Golden Globe. Et dans une carrière de navigateur, passer le Cap Horn la première fois, c'est vraiment un aboutissement, quoi. Hein, et ce qui est aussi amusant dans ces régions-là, c'est que on le passe parfois dans des conditions dantesques, on le passe parfois dans des conditions au contraire très calmes, et il n'y a pas de règles. Et chaque passage du Cap Horn, j'en ai un souvenir ému, d'autant plus ému la dernière fois, c'est-à-dire pendant le Golden Globe, que quelques années plus tôt, en 2014...
Voilà, racontez ça, en 2014.
Voilà,
Là, c'était une croisière, on va dire, pas en compétition, avec des amis.
Ah, pas du tout, c'était avec des amis. Mmh,
donc on peut s'arrêter à ce moment-là, au Cap Horn.
Voilà, on s'est arrêté.
On a fait escale au Cap Horn.
On a fait escale au Cap Horn, on est descendu sur l'île, on a visité l'île, alors elle n'est pas grande, hein, mais on est allé voir la statue qui est tout au bout, qui représente un albatros en train de planer. On était voir le gardien qui nous a reçus chez lui, qui nous a
donc le gardien de phare,
expliqué
hein
sa vie, ben absolument, avec
il y a
sa
un phare
femme,
au Cap Horn,
ses enfants, son chien, etc. Et il nous a un peu expliqué sa vie, ce qui fait que...
Vous avez bu un thé, paraît-il,
oui, oui,
dans le phare
fait
du Cap Horn.
Voilà, exactement, on a bu un thé avec eux, et c'était le 1er janvier, c'était le jour de l'an, et c'était magique. Et donc forcément, quand j'y suis repassé dans le Golden Globe, je connaissais sa maison,
oui, c'est
c'était
génial
plus le même
pour
gardien.
Vous. Oui, c'est génial pour vous.
Évidemment, oui. Les gardiens restent un an là, et c'est des militaires. Et c'était extraordinaire parce que je savais où il vivait, je connaissais son île, je connaissais, évidemment, je l'ai appelé à la radio, on a papoté. Lui-même a pris une photo où on voit un petit bateau, petit point blanc au milieu des vagues blanches.
Et ça, c'est vous.
Et c'était moi, et la photo a fait elle aussi le tour du monde.
Ah oui, j'imagine. Ce sont vraiment des récits d'exploits et d'aventures, Vandenède. Benoît Immermann, je rappelle que vous êtes journaliste et écrivain, et par ailleurs, l'éditeur de Jean-Luc. Ce Cap Horn, ça appartient à une mythologie de l'invisible. C'est-à-dire qu'on connaît tous son nom, le Cap Horn, évidemment. On l'a tous appris ça à l'école, petit, on voit ce que c'est. Mais en fait, on ne voit pas ce que c'est. Seuls les marins qui croisent au large, ou d'ailleurs parfois ils ne le voient pas, seuls ceux-là ont vu le Cap Horn. Donc ils sont assez peu nombreux à l'échelle de l'humanité à avoir vu ce Cap Horn que tout le monde connaît.
C'est effectivement un mythe. Alors déjà, il y a l'endroit géographique. C'est comme un goulot d'étranglement, si vous voulez. Même s'il est très large, le détroit de Drake est très large, mais entre l'Antarctique et le continent sud-américain, le plateau est assez haut, et donc se crée un mouvement et des perturbations assez étonnantes. Et c'est vrai que c'est un mythe, parce que le premier navigateur solitaire à passer le Horn, c'est assez récent, c'est en 47, c'est Vito Dumas, l'Argentin.
1947.
Mmh. Donc effectivement, on a attendu pas... Slocum, qui fait le premier tour du monde en solitaire, passe par Magellan. C'est difficile, il n'a pas de sondeur, tout ça, il met 3 mois à faire Magellan. Mais passer le Cap Horn en solitaire, c'est quelque chose d'assez étonnant. Et ça a été aussi une bataille antérieurement pour les grands bateaux à voile, les trois mâts qui allaient livrer leurs marchandises à San Francisco ou à Valparaiso. Donc c'était c'est une mythologie. Et il y a cette fameuse photo qui se fait régulièrement par tous les navigateurs qui passent le Cap Horn, d'essayer, s'ils ne passent pas trop au loin, de se prendre en photo devant le Cap Horn.
Et oui.
C'est comme une borne, effectivement, que toute la population chilienne revendique, puisque ça leur appartient, mais c'est un lieu qui appartient au monde entier.
Un selfie rare, du coup, c'est un selfie qui vaut cher, celui-là.
C'est très, très rare.
c'est le selfie très rare.
Et ce lieu appartient effectivement à la mythologie de la littérature, de la navigation, et c'est tant mieux.
Et la mythologie du sport, évidemment, aussi. Jean-Luc, donc je rappelle que vous avez gagné cette course très particulière il y a un an, qui est donc un tour du monde sans assistance technique, au sextant, avec les astres. Enfin, c'est une course à l'ancienne, on va dire, une course vintage, pour parler 2020. Néanmoins, le 5 novembre 2018, pendant cette course, il vous est arrivé une tuile qui a failli vous faire abandonner la course. Qu'est-ce qui s'est passé ce 5 novembre 2018, Jean-Luc Vandenelde?
Eh bien, j'avais une avance considérable sur le deuxième, puis j'étais 15 jours à peu près d'avance.
Vous étiez en tête, voilà.
Et comme un imbécile, j'ai mis un peu trop le cap vers le Cap Horn, et j'étais un petit peu trop travers aux vagues, probablement. Et dans la nuit, alors que je dormais, eh ben le bateau a chaviré, c'est-à-dire que le mât s'est retrouvé dans l'eau
à l'horizontale,
à peu près. Ah non, au-delà de l'horizontale,
en dessous
à peu
la mer.
Près à 145-150 degrés. C'est-à-dire que moi j'ai roulé sur la paroi du bateau, j'ai atteint le plafond et tout de suite après le bateau s'est redressé. Les bateaux ont des quilles, ces bateaux-là ont des quilles qui sont très importantes, qui font à peu près 42% du poids du bateau, presque la moitié du poids du bateau. Et donc, ça fait comme un ludion. Pouf, ça se redresse. Évidemment,
Avec quelques chocs.
Je suis sorti en catastrophe, voir qu'est-ce qui restait sur le pont. Et miraculeusement, j'avais toujours mon conservateur d'allure, un peu tordu, mais aussi, j'avais toujours mon mât. Alors, il était un peu
chancelant,
voilà. mais il était toujours là. Et donc, quand le jour s'est levé, j'ai essayé de comprendre pourquoi il était chancelant. Je me suis aperçu que les haubans étaient détendus. J'ai essayé de comprendre pourquoi. Et puis, je me suis dit, de toute façon, là, je peux pas continuer comme ça, donc j'arrête. Et donc, j'ai décidé d'abandonner. Donc, je voulais pas que ma compagne apprenne ça par
les médias
interposés.
Parce que angoisse, on imagine, grande angoisse.
Parce que le téléphone qu'on avait était réservé au PC Course, mais on pouvait appeler qui on voulait.
Bien sûr.
Sauf que le PC Course le savait, puisque c'est lui qui recevait les factures de téléphone.
Oui, donc ça vient de vérifier, évidemment.
Et évidemment, ouais. De toute façon, moi je m'en suis pas caché, j'ai dit j'abandonne et j'appelle...
ma femme pour la prévenir.
Le deal.
Oui, bien sûr. Oui.
Ce qui m'a valu une pénalité quand j'ai décidé,
reprendre.
Après 2-3 jours où je pensais me diriger vers le Chili, vers Puerto Monte, je me suis dit, après tout, le mât il est fichu, c'est pas réparable, donc j'avais fait une petite réparation un peu sommaire, je me suis dit, plutôt que d'aller au Chili, je vais essayer de descendre jusqu'au Cap Horn, et puis on verra bien, si ça tombe, ça tombe. On avait tous sur les bateaux des gréments de fortune qu'on avait dû tester avant. Donc je me suis dit, si il m'a tombe, je mettrai mon gamin de fortune et j'arriverai dans un autre port. Et donc, je suis remonté au mât, j'ai essayé de renforcer au maximum la déchirure que le mât avait, parce qu'il y avait dans le mât une déchirure d'à peu près 5 cm. Et en conduisant le bateau prudemment, sans forcer, j'avais encore une bonne semaine d'avance. J'ai réussi à conserver 2-3 jours d'avance sur mon adversaire principal.
Benoît Himmermann, quel récit extraordinaire, parce que donc en novembre, il est au bord de Dématé, tout d'un coup VDH répare son bateau, repart, et là s'engage une course-poursuite hallucinante pour remonter l'Atlantique avec le deuxième qui lui colle au basque. Et là, on va suivre ça comme une sorte de récit épique, parce que on sait pas, et puis il a 73 ans, on a envie qu'il gagne, on a envie que c'est le couronnement d'une vie. Mais le second est là, et le second,
il a envie de gagner.
Colle le train, bien sûr. Mais quelle histoire extraordinaire.
Justement, c'est aussi ça qui le rapproche de l'opinion et du grand public. C'est-à-dire qu'un marin ne renonce pas. Nous, on est dans un monde où quand une machine marche pas, on la jette à la poubelle, il y a un taux d'obsolescence de tous les instants. instrument qui est extraordinaire, ben non, le marin, il va essayer en tout cas de trouver une solution.
Pour réparer. Et repartir.
Et donc ça aussi, c'est une leçon formidable dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que de ne pas renoncer immédiatement, de ne pas baisser les bras vis-à-vis de la technique, vis-à-vis des objets qui nous entourent.
Ou des éléments.
Mmh. Là, Jean-Luc l'a prouvé une fois de plus, et c'est vrai que c'est une belle leçon.
Jean-Luc, j'ai lu à plusieurs reprises que vous dites souvent, quand je pars en mer, je deviens moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire, Jean-Luc ? Est-ce que vous n'êtes pas vous-même ce soir complètement, par exemple ?
Mais quand on est à terre, on a les contraintes de la terre. Donc on se demande si on va arriver à l'heure, on se demande si le train va partir, on se demande...
On est entravé tout le temps.
Oui, la vie est pleine de contraintes et de... En mer, c'est fini, il n'y a plus de contraintes. La seule contrainte qu'on a, c'est de faire marcher le bateau le mieux possible, de s'entretenir, se nourrir et soigner sa petite planète. On est... sur le bateau, comme si on était sur sa petite planète, dans un environnement immense. On a tout à fait conscience de l'importance de cette petite planète que l'on occupe, donc on la soigne. Et donc, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup, cette espèce de routine qui s'installe, le lever du jour, les repas, le sommeil, les réglages, le point, savoir où on est, douter de sa position. Ça, c'est un truc aussi qu'on ne connaît plus. Aujourd'hui, on appuie sur un bouton.
On est géolocalisé.
Et s'affiche une espèce de carte.
Vous êtes
immédiatement
là.
Et personne n'en doute.
Bien sûr.
On sait très bien
c'est vrai. Le
GPS, il dit qu'on est là, on est là. Alors que moi, je mesure l'angle que fait le soleil avec l'horizon. Après des calculs, j'arrive à me dire, tiens, je devrais être à peu près là. Mais on doute toujours. On cesse de douter quand on voit un caillou, quand on voit des rochers, quand on voit la côte, où là, on se dit, ah, ben ça y est, je peux me recaler convenablement. Parce qu'évidemment, ça dépend aussi de sa montre, ça dépend de sa visée, ça dépend d'un tas de choses. Et cette espèce de doute que l'on a sur soi-même, c'est assez excitant aussi. Parfois, si on n'a pas de soleil, il y a des nuages, on ne voit pas le soleil, on ne voit pas les étoiles.
Donc on sait pas trop où on est.
On va rester 2 jours, 3 jours, 4 jours, sans avoir de vraie position. Alors évidemment, on suit son estime avec son compas et avec son loch, mais on ne sait pas exactement où on en est. On a eu la preuve il y a quelques semaines, là, où des plaisanciers pensaient arriver sur Belle-Île, et en réalité, ils étaient à Groix, parce que le GPS ne fonctionnait plus.
Oui, c'est intéressant.
Francis Chichester, grand marin anglais, qui a navigué beaucoup, même très tard, comme vous, Jean-Luc, disait, on lui posait la question, mais pourquoi vous aimez la mer ? En mer, je suis maître de moi-même. Et je pense que c'est une définition que j'aime beaucoup, qui ressemble d'ailleurs un peu à ce que nous dit Jean-Luc.
Benoît Mermann, ce qui est intéressant avec VDH, c'est que par ailleurs, il n'oppose pas le passé au présent. Quand je dis ça, c'est qu'il est vraiment, je le disais en introduction, au confluent des siècles. Par exemple, il y a une préface de Thomas Coville dans le livre, jeune navigateur, pilote de bolide, qui dit sa fascination pour VDH. Et il est au confluent des siècles, c'est-à-dire que à la fois, il peut être héritier d'une tradition, mais il n'est pas passéiste. C'est là où il est intéressant, VDH aussi.
Et justement, c'est vrai dans d'autres domaines, dans le domaine de l'alpinisme, par exemple, comme on a conquis tous les sommets, on essaie de faire autrement. Et je trouve que la navigation en matière de voile, on est un peu dans ce domaine-là actuellement. C'est-à-dire que comme on va tellement vite autour du monde qu'on est un peu en butée en ce qui concerne ce type de record, on essaie de redécouvrir une réalité un peu autre, plus près de la nature. Je pense que c'est une autre manière de naviguer, mais qui ne contredit pas effectivement tous les progrès qui se font technologiquement par ailleurs.
Oui, c'est le propre de l'homme de chercher toujours à aller plus vite,
Ça, c'est effectivement,
plus performant.
Absolument. Jean-Luc, deux questions pour finir. L'avenir se dessine comment ? Est-ce que Jean-Luc Vandenède va reprendre la mer ?
Évidemment.
En compétition, j'entends. Est-ce que c'est possible ?
Oui, le 1er mars, j'ai une régate.
C'est important, mais c'est bien. C'est une compétition, c'est une course. Il faut la gagner.
Évidemment, j'ai revendu Matmut à un Néo-Zélandais qui va faire la prochaine édition en 2022. Et moi, je me suis acheté un bateau normal de régate, un X-37.
Et c'est reparti.
Je vais reprendre les régates en équipage, parce que j'aime beaucoup courir en équipage. C'est un autre aspect. Il y a vraiment, chez moi, trois aspects très différents. Il y a la croisière, car je fais toujours des croisières et j'adore les
voile
croisières.
Voile plaisir.
Je rêve de croisières. Mmh. Il y a l'aspect course en équipage, où là, il faut entraîner et faire en sorte que chacun soit coordonné, faire en sorte que chacun soit heureux. Parce que les équipages, à ce niveau-là, ils sont absolument pas payés ni quoi que ce soit. Ils sont là pour le plaisir, même quand il pleut à verse et même quand il y a 30 nœuds de vent. Et puis, il y a la course en solitaire, qui est le troisième truc, complètement différent, puisque là, on est tout seul. Et comme on le disait tout à l'heure, on ne sait pas ce qui se passe dans les bateaux. On pourrait très bien rester dans sa couchette et se dire « bon ben, je suis fatigué, je vais attendre un peu, je vais... » on pourrait très bien se laisser aller. On pourrait très bien... un jour, j'étais au large du Portugal, j'étais avec Ucurandma qui a fini troisième. Et donc, je le voyais, et donc je l'appelle à la VHF, tout ça. Il n'y avait pas de vent, c'était terrible. Et puis d'un seul coup, le vent arrive et le vent... venant de derrière, ah, je dis super, je l'appelle, je dis ça y est, moi je vais envoyer mon spi super en avance, et lui il me dit oh I am too lazy to do that, je suis trop paresseux pour faire ça.
C'est génial.
Alors, évidemment il est arrivé troisième.
Ben, c'est génial. Pour finir, Jean-Luc, est-ce que à l'arrivée de cette course il y a un an, cette première victoire pour vous à 73 ans dans une course en solitaire, est-ce que vous avez repensé à ce petit garçon qui, dans le jardin de son grand-père, avait ce bateau de fantasme, ce bateau immobile en Picardie?
Ah ben, c'est sûr que forcément, j'aurais aimé que mon grand-père voie ça.
Ben oui, j'imagine bien.
Il n'a jamais très bien compris. Donc c'est lui qui m'a élevé jusqu'à l'âge de 12 ans, et il a été étonné de cet engouement que j'ai pu avoir au niveau des bateaux. Et après, quand il m'a vu partir faire la mini transat et tout ça, il m'a dit mais qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas foutre dans ces trucs-là? Il était bon, j'avais un métier, j'étais prof, etc. Pour faire la mini, il fallait prendre 3 mois de disponibilité pour pouvoir faire cette course. Et pour lui, ça lui paraissait saugrenu, lui qui était fonctionnaire d'État, receveur, percepteur. Comprenez pas très bien cet engouement.
En tout cas, merci à vous deux d'être venus ce soir. C'était passionnant de vous écouter l'un et l'autre. Je rappelle que vous pouvez lire le livre, le dernier Loup de mer, Mémoire de Jean-Luc Vandenède, disponible aux éditions Stock. Merci à vous deux. Ne quittez pas l'écoute, car voici maintenant le Give Me Five de Joy Raffin.
L'œil du tigre.
Bonsoir Joy.
Bonsoir Colin, bonsoir à tous.
Alors que trouve-t-on ce soir dans ce Give Me Five?
Eh bien on commence avec un big up et aussi plein de courage à Kimia Alizadeh, la célèbre taekwondiste iranienne. Voilà, elle met fin aux rumeurs via son compte Instagram. La seule femme médaillée olympique, on le rappelle, du sport iranien, c'était au JO de Rio en 2016, annonce avoir quitté définitivement l'Iran. Je commence par bonjour. Au revoir ou condoléances? Alors c'est pas de moi, voilà. Ce sont les mots du post du compte Instagram de la sportive, dans lequel elle nous explique, elle nous donne de ses nouvelles, donc Kimia Alizadeh, et elle explique qu'elle est partie s'entraîner maintenant aux Pays-Bas, après avoir quitté l'Iran. La championne de taekwondo se prépare désormais avec Mimoun Elbouzoufi en vue des JO de Tokyo. Elle en pouvait plus, hein, tout simplement, des pressions de son pays. Donc on lui souhaite bien sûr les plus grands succès sportifs et une vie apaisée, et on ne peut que la féliciter.
Effectivement, force et courage pour Kimia Alizadeh. La suite, Joy.
C'est là nouvelle de ce début d'année, Colin.
Eh oui.
L'éditeur du jeu vidéo Olive et Tom, dont le nom officiel est Captain Tsubasa, hein, tout le monde le sait bien sûr, vient d'annoncer sa sortie sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC, comme ça tout est cité, pour 2020. Il s'agira d'un vrai jeu de football qui va mélanger vraiment des mécaniques d'arcade, la simulation de sport, le tout dans le design dessin animé, hein, bien sûr. Alors maintenant, on attend de savoir si le ballon prendra la forme d'un ballon de rugby, vous savez, qui met des heures là pour aller s'écraser dans les filets quand Olive Aton ou Mark Landers tirent. Le jeu est déjà disponible et très demandé en précommande. Ben oui, hashtag nostalgie. Hashtag 90s.
Oui, et on sait que ça te fait très plaisir, Olivier Tom, à chaque fois. Quoi d'autre, s'il te plaît?
Eh bien, le très très créatif site Bleacher Report a publié sur le web une collection de maillots de foot hyper stylées, hyper jolies, qui sont inspirées en fait des plus grandes séries de télé de ces dernières années. Donc c'est une dizaine de designers qui se sont prêtés au jeu et qui ont créé des maillots dans l'univers des séries, comme Game of Thrones ou Breaking Bad. Donc ça n'existera jamais, on ne pourra pas les acheter, c'est juste beau, voilà, c'est pour le plaisir des yeux. C'est un kiff à regarder dont j'avais envie de vous parler.
Et oui, c'est à voir donc sur le site, le Bleacher Report, que moi je ne connaissais pas, donc à découvrir sur le web. Un souhait maintenant, alors du coup, Joy.
Oui.
Un souhait.
Ah, après avoir annoncé que Didier Deschamps a été prolongé jusqu'en 2022 à la tête de l'équipe de France, le président de la FFF, Noël Le Graët, a déjà imaginé le plan parfait.
Oui, son plan parfait. Oui.
Son plan parfait. Mmh. Dédé chez les Bleus jusqu'au Qatar, mmh, au minimum, mmh, et puis Zidane juste après. Mmh. Voilà, en gros, comment mettre tout le monde d'accord et ne surtout pas se mouiller.
Voilà. Pour finir, Joy, ton conseil culturel, bien sûr.
À la veille des championnats de patinage artistique à Séoul, je vous propose de voir en replay, donc gratuitement aussi, sur le site d'Arte, un documentaire génial consacré au boléro de Ravel. Eh oui, le boléro de Ravel, la musique de ballet hein, de Maurice Ravel. Ça s'appelle « Boléro, le refrain du monde ». C'est un film d'Anne-Solène Douguet et Damien Cabrespine. Alors pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que ce titre, hein, créé en 1928, aujourd'hui mondialement connu, a aussi été utilisé dans le sport. Si vous aviez oublié, écoutez.
En 1984, le boléro touche ainsi des millions de téléspectateurs qui s'enthousiasment devant les acrobaties d'un couple britannique. À milieu de l'ambiance feutrée de l'opéra, ce moment olympique participe à sa légende.
Voilà. Et là, on y est, là. Et là, on revoit sans doute Jane Torvill et Christopher Dean virevoltés dans leur tenue violette aux Jeux Olympiques de Sarajevo en 1984. Non, mais c'était un vrai moment de grâce, hein, voilà. Et c'est ça que nous raconte le documentaire d'Anne-Solène Douguet et de Damien Cabrespine. C'est comment le chef-d'œuvre de Ravel a su vraiment marquer le monde entier et toutes les disciplines, hein, sportives comprises, s'inscrivant dans la mémoire collective sans même que l'on s'en aperçoive, en fait. Un chef-d'œuvre, tout
oui,
simplement.
Un chef-d'œuvre, ce boléro de Ravel. Et donc, le boléro au refrain du monde, un documentaire d'Anne-Solène Douguet et de Damien Cabrespine à revoir sans modération sur le site d'Arte TV. Merci Joy.
De rien Colin, à la semaine prochaine.
Salut. Et voilà, cette 19e émission de notre saison 5 a été coachée ce soir par François Audouin. Merci beaucoup François. Assisté ce soir à la technique de Julien Dumont. Merci à Julien, merci à toute l'équipe de L'Œil du Tigre qui prépare cette émission avec moi. On se retrouve dimanche prochain bien sûr avec un nouvel épisode de L'Œil du Tigre, l'émission qui vous raconte la grande histoire du sport. D'ici là, passez une excellente soirée et une excellente semaine sur Inter. Salut et fraternité.